Les aventures d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, réalisé par Jean-Pierre Mental. Précédemment, dans La Demeure Mystérieuse.
Vous allez lui tourner la tête au navigateur.
Si vous n'étiez pas le premier à rire, je ne m'apercevrai jamais que vous avez essayé de faire de l'esprit. Monsieur Denris, pour qui votez-vous?
Pour la plus belle.
Au feu, au feu!
Et voilà mon vieux escamoté.
Mes diamants! Je ne me laisserai pas faire, on n'a pas le droit, l'État est responsable.
La demeure mystérieuse, deuxième partie. Denris ne s'était pas trompé. L'individu tenant sur l'épaule Régine, évanouie et recouverte du manteau de fourrure, avait traversé le boulevard Haussmann et s'était dirigé vers la rue de Mogador. Là, une auto y stationnait. À son approche, la portière s'ouvrit et une femme, dont une dentelle épaisse enveloppait la tête, tendit les bras. L'individu lui passa Régine en disant « Le coup a réussi, ma vieille. Un vrai miracle. » Puis il referma la portière, monta sur le siège de devant et démarra. L'engourdissement ou l'épouvante avait plongé l'actrice dura peu. Elle se réveilla dès qu'elle eut l'impression qu'on s'éloignait de l'incendie ou de ce qu'elle croyait être un incendie, et sa première idée fut de remercier celui ou ceux qui l'avaient sauvée. Mais tout de suite, elle se sentit étouffée par quelque chose dont sa tête était entourée et qui l'empêchait de respirer à son aise et de voir.
« Mais que se passe-t-il ? » ?»«
Ne bougez pas. Si vous appelez au secours, tant pis pour vous, ma petite. »
Aïe, mais qu'est-ce que vous faites?
Ce n'est rien. La pointe d'un couteau. Dois-je appuyer?
Régine ne remua plus. Ses idées, cependant, s'ordonnaient. La situation apparaissait sous son aspect véritable. Et, en se rappelant les flammes entrevues et le commencement d'incendie, elle se répétait.
Mais j'ai été enlevée par un homme qui a profité de la panique et qui m'emporte avec l'aide d'un complice.
Doucement, elle tâtonna de sa main libre. Le corselet de diamants était bien là, tout était intact. L'auto filait à une allure rapide. Quant à deviner la route suivie, Régine, dans la prison de ténèbres où elle se trouvait, n'y songea pas. Elle avait l'impression que l'on tournait souvent, un virage brusque, sans doute pour échapper à une poursuite quelconque, et pour qu'elle ne pût, elle, s'y reconnaître. En tout cas, on ne s'arrêta pas devant des octrois, ce qui prouvait qu'on ne sortait pas de Paris. De plus, les lumières des becs électriques se succédaient à intervalles rapprochés et jetaient dans la voiture de vives clartés qu'elle apercevait. C'est ainsi que la femme, ayant un peu desserré son étreinte et le manteau s'étant légèrement écarté, Régine put voir deux doigts de la main qui se crispaient autour de la fourrure. Et l'un de ses doigts, l'index, portait une bague faite de trois petites perles fines disposées en triangle. Le trajet dura peut-être 20 minutes, puis l'auto ralentit et fit halte. L'homme sauta du siège, les deux battants d'une porte s'ouvrirent lourdement l'un après l'autre et l'on entra dans ce qui devait être une cour intérieure. La femme aveugla Régine le plus possible et, assistée de son complice, l'aida à descendre. On monta un perron de 6 marches en pierre, puis on traversa un vestibule d'allée et ce furent ensuite les 25 marches d'un escalier garni d'un tapis et bordé d'une vieille rampe qui les conduisit dans une pièce du premier étage.
Vous êtes arrivé. Vous savez, je n'aime pas agir brutalement. Il ne vous sera fait aucun mal si vous me donnez votre tunique de diamant. Vous y consentez?
Mais non!
Vous savez, il nous est très facile de vous la prendre et nous l'aurions pu déjà.
Pas cette tunique, non, je vous en prie.
J'ai tout risqué pour l'avoir. Je l'ai maintenant, ne résistez pas. Est-ce qu'il faut que je me serve moi-même?
Ne me touchez pas, je vous le défends. Tout ce que vous voudrez, je consens à tout, mais ne me touchez pas.
Il s'éloigna un peu tout en restant derrière elle. Le vêtement de fourrure glissa le long de Régine et elle reconnut que ce vêtement était le sien. Elle s'assit épuisée. Elle pouvait voir maintenant la pièce où elle se trouvait et elle vit que la femme voilée qui s'était mise à dégrafer le corselet de pierreries et la tunique d'argent portait un vêtement prune avec des bandes de velours noir. La pièce, très éclairée par l'électricité, était un salon de grande dimension avec des fauteuils et des chaises garnies de soie bleue, de hautes tapisseries, des consoles, des boiseries blanches admirables et du plus pur style Louis XVI. Un trumeau surmontait la vaste cheminée qu'ornaient deux coupes de bronze dorées et une pendule à colonnettes de marbre vert. Au mur, quatre appliques et au plafond, deux lustres formés de 1000 petits cristaux taillés. Inconsciemment, Régine enregistrait tous ces détails, tandis que la femme retirait la tunique et le corselet, lui laissant le simple fourreau lamé d'argent qui dégageait ses bras et ses épaules. Régine nota aussi le parquet composé de lames croisées et en bois d'essence diverses, et elle observa un tabouret au pied d'acajou. C'était fini, la lumière s'éteignit tout d'un coup. Dans l'ombre, elle entendit «
Parfait, vous avez été raisonnable. Nous allons vous reconduire. Tenez, je vous laisse même votre manteau de fourrure, vous voyez ?»
On lui entoura la tête avec une étoffe légère qui devait être un voile de dentelle semblable à celui de la femme, puis elle fut placée dans l'automobile et le voyage recommença avec les mêmes tournants brusques.
« Nous y voici. Descendez. Vous voyez, ça n'a pas été aussi grave que ça. Vous retournez sans une égratignure. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas souffler mot de ce que vous avez pu voir ou deviner. Vos diamants ont été volés, un point, c'est tout. Oubliez le reste. Mes hommages, madame. »
L'auto fila rapidement. Régine ôta son voile et reconnut la place du Trocadéro, si près qu'elle fût de son appartement. Après tout, elle habitait à l'entrée de l'avenue Henri-Martin. Il lui fallut un effort prodigieux pour s'y rendre. Ses jambes fléchissaient sous elle, son cœur battait à lui faire mal. Il lui semblait à tout instant qu'elle allait tournoyer et s'abattre comme une masse. Mais au moment où ses forces l'abandonnaient, elle avisa quelqu'un qui venait en courant à sa rencontre. Et elle se laissa tomber dans les bras de Jean Denris, qui l'assit sur un banc de l'avenue déserte. Je vous attendais. J'étais sûr qu'on vous reconduirait près de votre maison dès que les diamants seraient volés. Pourquoi ? Ils vous ont regardé. C'était trop périlleux pour eux. Reposez-vous quelques minutes. Voilà. Arrêtez de pleurer.
J'ai eu si peur. J'ai peur encore. Et puis, ces diamants.
Un instant plus tard, il la fit entrer, la mit dans l'ascenseur et la conduisit chez elle. Ils trouvèrent la femme de chambre qui arrivait effarée de l'opéra avec les autres domestiques, puis Van Houben fit éruption, les yeux désorbités.
« Mes diamants, vous les rapportez, hein, Régine ? Vous les aviez défendus jusqu'à la mort, mes diamants, j'espère !»
Oh, « taisez-vous, vous voyez bien que madame a besoin de repos. »«
Ah, si Béchou était là, si Béchou était là, mes diamants, fichre !»«
Je voulais rentrer, vos diamants, fichez-nous la paix !»
Sur un divan, Régine se convulsait avec des spasmes, des gémissements. Denris se mit à lui baiser le front et les cheveux, sans trop appuyer, et d'une façon méthodique.
« Mais c'est inconcevable ça, mais qu'est-ce que vous faites ?»
Laissez, laissez, rien de plus réconfortant qu'un petit massage comme ça. Le système nerveux s'équilibre, le sang afflue, une tiédeur bienfaisante circule dans ses veines, c'est comme des passages magnétiques, vous savez. Et sous les regards furibonds de Van Houben, il continuait son agréable besogne, tandis que Régine renaissait à la vie et semblait se prêter avec complaisance à cet ingénieux traitement.